L'encyclopédie, article jeu, quelques extraits. Jeu, espèce de convention fort en usage dans laquelle l'habileté, le hasard pur ou le hasard mêlé d'habileté, selon la diversité des jeux, décide de la perte ou du gain, stipulé par cette convention entre deux ou trois plusieurs personnes. On peut dire que dans les jeux qui passent pour être le pur esprit d'adresse où l'habileté et le hasard même y entrent, en ce qu'on ne connaît pas toujours les forces de celui-ci contre lequel on joue, et qu'il survient quelquefois des cas imprévus, et qu'enfin l'esprit ou le corps ne se trouvent pas toujours également bien disposés, ne font pas toujours leur fonction avec la même vigueur. Quoi qu'il en soit, l'amour du jeu est le fruit de l'amour du plaisir, qui se varie à l'infini. De toute antiquité, les hommes ont cherché à s'amuser, à se délasser, à se recréer, par toutes sortes de jeux, suivant leur génie et leur tempérament. Longtemps avant les Lydiens, avant le siège de Troie, durant ce siège, les Grecs, pour en tromper la longueur et pour adoucir leur fatigue, s'occupaient à différents jeux qui, du camp, passèrent dans les villes, à l'ombre du loisir et du repos. Les Lacédémoniens furent les seuls qui bannirent entièrement les jeux de leur république. On raconte que Chiron, l'un de leurs concitoyens, ayant été envoyé pour conclure un traité d'alliance avec les Corinthiens, il fut tellement indigné de trouver les magistrats, les femmes, les vieux et les jeunes, capitaines, tous occupés au jeu, qu'il s'en retourna promptement en leur disant que ce serait ternir la gloire de Lacédémone, qui venait de fonder Byzance, que de s'allier avec un peuple de joueurs. Il ne faut pas s'étonner de voir les Corinthiens, passionnés d'un plaisir qui communément règne dans les États, à proportion de l'oisiveté, du luxe et des richesses. Ce fut pour arrêter, en quelque manière, la même fureur que les lois romaines ne permirent de jouer que jusqu'à une certaine somme. Mais ces lois n'eurent point d'exécution, puisque parmi les excès que Juvénal reproche aux Romains, celui de mettre tout son bien au hasard du jeu est marqué précisément dans sa première satire, vers 88. La frénésie des jeux de hasard a-t-elle jamais été plus grande? Car ne vous figurez pas qu'on se contente de risquer dans ces académies de jeu ce qu'on a par occasion d'argent sur soi. On y fait porter exprès des cassettes pleines d'or pour les jouer en un coup de dé. Ce qui paraît plus singulier, c'est que les Germains même goûtèrent si fortement les jeux de hasard qu'après avoir joué tout leur bien, dit Tacite, ils finissaient par se jouer eux-mêmes et risquaient de perdre novissimo iactu, pour me servir de cette expression, leur personne et leur liberté. Si nous regardons aujourd'hui les dettes de jeu comme les plus sacrées de toutes, c'est peut-être un héritage qui nous vient de l'ancienne exactitude des Germains à remplir ces sortes d'engagements. Tant de personnes de tout pays ont mis et mettent sans cesse une partie considérable de leurs biens à la merci des cartes et des dés, sans en ignorer les mauvaises suites, qu'on ne peut empêcher de rechercher les causes d'un attrait si puissant. Un joueur habile, dit l'abbé Dubot, pourrait faire tous les jours un gain certain en ne risquant son argent qu'au jeu, où le succès dépend encore plus de l'habileté des tenants que du hasard des cartes et des dés. Cependant, ils préfèrent souvent les jeux où le gain dépend entièrement du caprice des dés et des cartes, et dans lesquels son talent ne lui donne point de supériorité sur les joueurs. La raison principale d'une prédilection tellement opposée à ses intérêts procède de l'avarice ou de l'espoir d'augmenter promptement sa fortune. Outre cette raison, les jeux, qui laissent une grande part dans l'événement à l'habileté du joueur, exigent une contention d'esprit trop suivie et ne tiennent pas l'âme dans une émotion continuelle, ainsi que font le passe-dix, le lansquenet, la bassette et les autres jeux où les événements dépendent entièrement du hasard. À ces derniers jeux, tous les coups sont décisifs et chaque événement fait perdre ou gagner quelque chose. Ils donnent donc l'âme, ils la tiennent dans une espèce d'agitation, de mouvement, d'extase. Et ils y tiennent encore sans qu'il soit besoin qu'elle continue à son plaisir par une attention sérieuse dont notre paresse naturelle est ravie de se dispenser. Monsieur de Montesquieu confirme tout cela par quelques courtes réflexions sur cette matière. Le jeu nous plaît en général, dit-il, parce qu'il attache notre avarice, c'est-à-dire l'espérance d'avoir plus, il flatte notre vanité par l'idée de la préférence que la fortune nous donne et de l'attention que les autres ont sur notre bonheur. Il satisfait notre curiosité en nous procurant un spectacle. Enfin, il nous donne les différents plaisirs de la surprise. Les jeux de hasard nous intéressent particulièrement parce qu'ils nous présentent sans cesse des événements nouveaux, prompts et inattendus. Les jeux de société nous plaisent encore parce qu'ils sont une suite d'événements imprévus qui ont pour cause l'adresse jointe au hasard. Aussi le jeu n'est regardé dans la société que comme un amusement. Et je lui laisse cette appellation favorable de peur qu'une autre plus exacte ne vienne rougir trop de monde. S'il y a même tant de gens sages qui jouent volontiers, c'est qu'ils ne voient point quels sont les égarements cachés du jeu, soit ses violences et ses dissipations. Bon, ce n'est pas que je prétende que les jeux mixtes, ni même les jeux de hasard, ayant rien d'injuste, en jugés par le seul droit naturel, car outre que l'on s'engage au jeu de plein gré, chaque joueur expose son argent d'un péril égal. Chacun aussi, comme nous le supposons, joue son propre bien, dont il peut par conséquent disposer. Les jeux et autres contrats où il entre du hasard sont légitimes dès que ce qu'on risque de perdre de part et d'autre est égal. Et dès que le danger de perdre et l'espérance de gagner ont de part et d'autre une juste proportion avec la chose que l'on joue. Cependant, cet amusement se tient rarement dans les bornes que son nom promet, sans parler du temps précieux qu'il nous fait perdre et qu'on pourrait mieux employer. Il se charge en habitude puérile, s'il ne tourne pas en passion funeste par l'amorce du gain. On connaît à ce sujet les vers si délicats et si pleins de vérité de M. de Déhoulière. Le désir de gagner, qui nuit et jour occupe, étant dangereuse à d'aiguillon. Souvent, quoique l'esprit, quoique le cœur soit bon, on commence par être dupe, et on finit par être fripon. C'est en vain qu'on sait que les personnes ruinées par le jeu passent en nombre les gens robustes que les médecins ont rendus infirmes. On se flatte qu'on sera du petit nombre de ceux que ces bienfaits ont favorisés depuis l'origine du monde. Mais comme le souverain doit porter son attention à empêcher la ruine des citoyens dans toutes sortes de contrats, c'est à lui qu'il appartient de régler celui-ci et de voir jusqu'où l'intérêt de l'État et des particuliers exige qu'il défende le jeu ou souffre qu'il le permette en général. Les lois des gouvernements sages ne sauraient trop sévir contre les académies de philocubes, pour me servir du terme d'armesthète, et celles de tous les jeux de hasard disproportionnés. Le jeu occupe et flatte l'esprit par un usage facile de ses facultés. Il amuse par l'espérance du gain. Et pour l'aimer avec passion, il faut être avare ou accablé d'ennui. Il n'y a que peu d'hommes qui aient une aversion sincère pour le jeu. La bonne compagnie prétend que sa conversation, sans le concours du jeu, empêche de sentir le poids du désœuvrement. On ne joue pas assez.